Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et qu'on est également diffusé au BPM Sport. Et on est également en collaboration avec l'Hôtel Montville, d'où Nicolas Richard, tu nous parleras aujourd'hui. Comment te sens-tu en direct de l'excellent restaurant Monem?
Ouais, ben là, étant donné que je suis grassement payé par la presse, je pensais vous offrir la tournée, mais là, ce sera sans vous. Alors, je vais boire seul dans meurtri par la solitude.
Effectivement, parce qu'on sait qu'on boit toujours beaucoup d'alcool pendant l'émission.
En fait, c'est ce qui fait notre succès, je crois.
C'est ce qui fait notre succès, oui, c'est ça. Églégé, comment te portes-tu en direct du magnifique Parc Jarry dans le tout aussi magnifique stade IGA?
Ça va bien, Alex, ça va bien. Gros week-end, c'était les Jeux de Montréal. Tennis Montréal recevait le volet tennis ce week-end. Première compétition des 9-12 ans, généralement, dans le monde du tennis. Donc, c'est toujours beaucoup d'excitation pour les parents, pour les enfants. Ça a été un beau succès, encore une fois. Participation record cette année en 2023. Et je tiens à féliciter l'arrondissement vainqueur Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui remporte la bannière des arrondissements cette année, suivi par Verdun et Île-Bizard-Sainte-Geneviève, ex-écho en deuxième position. Ça a été un super week-end au Centre national.
Alors, c'est un tournoi où on développe la relève, vu que dans le fond, est-ce que c'est ouvert à tous ou est-ce que c'est déjà des joueurs dans des clubs qui jouent?
C'est très ouvert. La plupart des gens vont être identifiés dans leurs écoles, en fait. Là, il y a une présélection dans les arrondissements qui est faite et après, les gens choisis, généralement 4 par arrondissement, vont se présenter à la finale de la Ville de Montréal, qui est les Jeux de Montréal. C'est la 46e édition. À peu près tous les sports sont représentés. C'est vraiment une belle compétition. C'est une machine qui est bien rodée. Écoutez, j'y ai participé en 1977. Pour vous dire, ça fait combien de temps que ça existe, cette affaire-là? C'est vraiment un beau jeu. Et quand tu as 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu t'en souviens toute ta vie après parce que tu te sens comme aux Olympiques. C'est vraiment une belle compétition.
Et Alex, j'étais au lancement de Jeux de Montréal et j'ai même croisé mon idole, Hugues Léger en personne.
Non, je savais que c'est ça que tu allais dire. Hey, mais Eric, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Bon, là, tu me parlais des 9-12 ans, mais est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions de Tennis Montréal organisées pour d'autres niveaux d'âge et d'autres, peut-être, niveaux de jeu tout au courant de l'année?
Ben, écoute, tu me donnes l'occasion d'en parler parce qu'on lance notre programmation cette semaine, en fait. Allez voir sur Tennis Montréal, notre site web et nos réseaux sociaux. Il y a des compétitions. Il y aura un site permanent de compétition cette année pour les juniors et pour les adultes qui sera au Centre Claude-Robillard, je tiens à le dire. Donc, il y aura des compétitions presque tous les week-ends de l'été qui donneront des points au classement aussi. Donc oui, on offre plusieurs activités, dont les compétitions. Puis il y a une demande pour les compétitions, pour les jeunes, mais pour les adultes aussi qui ont envie de se mesurer un peu. Donc au-delà des ligues et des cours auxquels on peut participer chaque semaine, il y aura un site de compétition tout l'été au Centre Claude-Robillard à partir de la fin juin.
Et là, est-ce que tu es déjà inscrit chez les 25 ans et moins, Luc?
Ouais, là, je n'aurai pas le temps sur ces tournois-là de jouer. Je vais plutôt les superviser, mais j'y serai en personne pour échanger avec tous les gens qui voudront venir faire un tour.
Ben voilà, c'est dit. Et Nicolas Richard, toi, je sais que c'est une grosse semaine qui s'en vient pour toi parce que la semaine du Masters, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu vas porter ton attention, mais pas trop, hein, parce que tu dois suivre le tennis du coin de
Oui, complètement. Les textes sont déjà dans la machine pour être publiés cette semaine dans la presse. Alors oui, grosse semaine à venir, mais tu sais, on parle beaucoup du mois de fin septembre, début octobre pour la période phare dans le monde du sport, là. Mais cette période-ci du printemps, fin mars, début avril, le tennis recommence, le golf recommence, les séries dans plusieurs sports s'entament aussi. C'est vraiment une période névralgique pour tous les amateurs de sport, puis on a été choyés au cours du week-end notamment.
Intéressant. Il y a des séries éliminatoires qui s'en viennent dans le hockey également.
Qui sont déjà entamées aussi pour ta part, là.
Celle dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, effectivement, c'est déjà commencé. Là, on embarque la saison de terre battue rouge, mais avant qu'on aille sur la terre battue rouge, revenons sur ce qui s'est passé, messieurs, à Miami, parce que, écoute, je pense qu'on a eu un tournoi d'une certaine manière assez surprenant. On va commencer avec ce qui s'est passé du côté des Canadiens. Et pour ajouter à la discussion, je vais inclure notre ami et nouveau papa, Izad Junot. Izad, comment te portes-tu? Bienvenue une fois de plus au podcast Sur la ligne.
Salut les gars, ça va super bien et vous?
Ah ben moi, ça va extrêmement bien. T'entendais, Hugues, tantôt qui organise tout ce qui se passe tennis dans la grande région Montréal. Et Nico, là, qui continue de faire des articles incroyables dans la presse. Ben merci de te joindre à nous, Isard. Avant qu'on tombe dans le vif du sujet, un peu de tes nouvelles. As-tu recommencé à frapper des balles? Accompagnes-tu des joueurs présentement? Donne-nous un peu de tes nouvelles.
Oui, en fait, depuis Noël, là, j'ai recommencé un peu plus dans le tennis à temps plein pour l'hiver. Mon enfant, il a grandi un petit peu, donc je peux m'éloigner un peu plus de la maison. J'ai la permission un peu plus. J'ai fait quelques semaines sur la route à date depuis janvier, plus dans les tournois futurs, avec un jeune que je coach, là, en particulièrement un gars qui s'appelle Aurel Chocanou, qui sort du circuit américain des universités. Il est allé chercher son deuxième point ATP là, pendant les tournois. Il y avait des tournois futurs 25 000 à Montréal dans le mois de mars. Donc, il a joué ceux-là. Et je pars dimanche justement là, pour 2 semaines. On s'en va à Miami puis au Trinidad et Tobago, encore une fois, pour les tournois d'entrée là, du nouveau futur.
Donc, étais-tu à Montréal pour la victoire de Gabriel Diallo?
J'étais pas là pour la finale, mais justement, mon jeune a perdu contre Gabriel au deuxième tour. Un bon match. Puis moi, j'ai bien évidemment félicité Gabriel. Puis je l'ai vu jouer 3 matchs durant la semaine, mais je n'étais pas là pour la finale. J'avais d'autres obligations.
Ah ben ça, c'est intéressant. Ben, on est content de te revoir en action, mais on est déçu pour ta défaite, mais on est content pour Gabriel Diallo aussi qui a remporté ce tournoi-là, qui est un de nos préférés également au podcast.
Très belle attention d'ailleurs.
De
Gabriel.
Ouais,
ça va bien, là.
Mais ben, je pense qu'il aura fait le bon choix. On pourra en reparler peut-être un peu plus tard, mais de sauter chez les pros là, tout de suite. Messieurs, passons à ce qui s'est fait à Miami. Là, ne perdons pas trop de temps. Hugues, on va commencer du côté des Canadiens. Et je veux commencer avec Bianca Andreescu en m'excusant, parce que je pense que c'est de notre faute ce qui s'est passé. Je pense, messieurs,
on l'a
complètement jinxé. Et Bianca, à toi et à toute ton équipe, je m'excuse. On va être plus prudent la prochaine fois dans nos prédictions et dans nos commentaires. Ouais. Et je dis ça parce que là, on se disait la semaine passée, elle est de retour, plus de blessures, tout va bien. Quelques heures plus tard, elle s'effondre sur le terrain, Hugues.
On a dû changer notre citation avant même que le podcast sorte parce qu'elle s'est blessée dans l'entrefait. Donc, mais encore une fois, moi, je maintiens tout ce qu'on a dit la semaine passée. Hein. Je pense que Bianca est de retour. Je pense que son ambition de retrouver le top 10 est tout à fait légitime. Les victoires qu'elle a enchaînées, la qualité des matchs qu'elle a enchaînés nous donnent plein d'espoir pour ce qui s'en vient pour Bianca Andreescu, qui a encore que 22 ans, rappelons-le. Là, elle est toute jeune, Bianca. Donc, mais oui, effectivement, on pensait qu'elle était peut-être un petit peu moins fragile, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais oublions pas, elle a battu Maria Sakkari quand même. Elle a chauffé il y a 2 semaines Iga Świątek avec un 7-6, 6-4, ce que très peu de joueuses peuvent accomplir. Et malheureusement, écoutez, elle se froisse 2 ligaments dans son match de 16e de finale. Quand je l'ai vu sortir en chaise roulante, puis visiblement, elle avait très mal, là. Mais c'est la seule joueuse que j'ai vue dans toute ma vie sortir 2 fois d'un terrain en chaise roulante. Donc, une fois, c'était à la Fed Cup en 2018, ici, au Centre national, puis là, à Miami. Écoute, je ne sais pas quoi penser. Je pense qu'elle a une certaine malchance dans une certaine mesure, mais elle a été prompte aux blessures depuis sa carrière junior aussi. En Isad, tu l'as vu évoluer aussi, Bianca. Donc, écoute, c'est des choses qui arrivent, mais bon, elle sera de retour, mais elle joue un tennis de très haut niveau en ce moment. J'ai confiance pour le reste de la saison.
Ouais, la première fois qu'elle est sortie, c'était pas pour les mêmes raisons, là. C'était des crampes contre l'Ukraine, là.
Exact.
Dans le taille, là. Oui. Là, on a vu que ça avait l'air très douloureux. J'ai parlé, moi, le lendemain de son match un petit peu. Elle attendait ses résultats, puis on a vu, là, c'est deux ligaments qui ont cédé. C'était pas mal. La manière que ça s'est passé, puis c'est pas drôle, là, c'est pas le bon terme que je veux utiliser, mais c'est un peu un flashback parce que 2 ans auparavant, quand elle s'est blessée contre Barty sur le même terrain, c'était exactement au même endroit dans le fond du terrain. C'est sûr que là, à ce moment-là, c'était l'autre cheville qui avait vraiment tourné. Là, on a vu que c'était sur un replacement, ça avait l'air d'être un choc qui a été donné à hauteur de la cheville, puis ça l'a cédé, ce qui est. Ce type de blessure-là m'est arrivé, moi, justement, une fois, puis c'est bizarre parce que tu vois pas rien. On dirait pas que ça fait mal. Sur le coup, tu regardes la reprise, il n'y a rien que tourner, mais un choc comme ça, c'est plus haut, un petit peu dans la cheville. C'est très, comme tu dis, c'est très décevant. C'est, c'est triste un peu parce que de son tournoi, il allait bien. Non seulement elle a battu Sakkari, mais aussi Raducanu qui est non négligeable.
Non, exact. Bon, Nico, on a eu des nouvelles de cette blessure-là. Elle a annoncé, elle a dit carrément que, elle était quand même contente dans les circonstances parce que ça aurait pu être pire.
Oui.
Mais en même temps, quand on connaît son historique de blessure, est-ce qu'on doit s'inquiéter particulièrement de ce qu'on a vu ce week-end?
Bien, des échos que j'ai eus de son entourage, les nouvelles sont positives. Tu l'as dit, on aurait voulu évidemment éviter le pire, on aurait voulu qu'elle gagne ce match-là parce qu'on en reparlera peut-être, mais ce tableau-là était complètement ouvert pour Bianca, surtout de la façon dont elle jouait. Mais lorsqu'elle s'est blessée, quelques heures plus tard, j'ai écrit à des gens de son entourage. On m'a dit, elle voit le docteur présentement, on te revient. Parfait, je respecte évidemment le processus. Et lorsqu'on m'a dit que les résultats allaient sortir, on m'a dit que c'était, comme je l'ai mentionné, moins pire que prévu et que l'après-midi même du diagnostic, elle retournait dans le gym pour faire ses étirements, pour faire ses entraînements, pour déjà tester quelles sont ses limites, comment peut-on approcher cette réhabilitation-là. Donc, de voir que ça ne l'a pas affaissé, ça ne l'a pas dérangé outre mesure, que déjà elle rembarque sur son beat d'entraînement. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que si on évite l'opération, je pense que c'était surtout ça, là, le point crucial, on évite l'opération. Fait que je pense que dans les conditions, ce sont de bonnes nouvelles. Attendons de voir maintenant. Il n'y a pas d'échéancier non plus, là, c'est ce qu'on m'a dit. Là. On ne mettra pas de date fixe, on ne mettra pas de but pour une date sur un retour. Mais dans les conditions de ce que j'entends, ce sont des bonnes nouvelles pour l'entourage de Bianca.
Parlons-en de son tableau, puis je veux pas qu'on en parle trop, là, qu'on tombe sur Kvitova trop, parce que, bon, on va en reparler un peu plus tard, puisque c'est elle qui a remporté le tournoi, mais elle aurait probablement joué contre Kvitova si elle avait battu Alexandrova. Elle menait 2-0 dans le deuxième set avant de se blesser. Alors, on a des chances raisonnables de croire qu'elle aurait pu gagner ce match-là, et force est d'admettre qu'elle aurait pu gagner ce tournoi-là, Hugues.
Ben oui, moi, vous le savez, j'étais déjà parti, je la voyais déjà dans le carré d'as. C'était pas impossible qu'elle puisse aller chercher ce tournoi-là. Izad pourra en parler aussi, mais bon, Bianca joue à ce niveau-là, avec ce niveau d'agressivité, de créativité, de réussite en service aussi, tout est possible pour elle. Et je pense qu'elle aurait pu aller chercher une joueuse comme Kvitova ou même Rybakina après si elle s'était rendue. Moi, je rêvais vraiment à une grande réussite dans ce tournoi-là. Et je pense qu'elle aussi devait être vraiment attristée de cette fin abrupte-là parce que tout était possible pour Bianca dans ce tableau.
Qu'est-ce qui
Oui.
explique? Ouais, Isad, vas-y.
Non, mais ça, j'allais juste un peu encaisser sur le point de Hugues. On le voit de toute façon, on l'a vu dans le passé. Quand elle joue à ce niveau-là, bon, tout le monde est accessible. Puis bon, en partant dans les faits, tout le monde est accessible, je crois, dès le début. Mais quand Bianca est on, puis qu'elle a la bonne mentalité, puis là, on le voyait que elle semblait vouloir accomplir des bonnes choses. Des fois, on dirait qu'elle est un peu plus passagère dans les tournois, puis elle est moins investie. Je pense qu'elle se sent super bien à Miami aussi, là, pour avoir été dans le passé avec elle dans ces endroits-là. Je pense que ça joue un rôle aussi. Puis elle avait l'air de l'avoir dans les yeux, là, ce regard-là qu'elle voulait prouver qu'elle était encore parmi l'élite mondiale.
Tu la connais un peu, Isad, là. Qu'est-ce qui explique, selon toi, ou tu sais, je sais que tu nous révèles des choses trop personnelles, mais ces blessures à répétition, tu es celui de nous qui la connaît de plus près, tu l'as côtoyée de près, là. Qu'est-ce qui se passe avec Bianca? Pourquoi est-ce qu'elle finit toujours? Tu sais, oui, il y a de la malchance, là, mais elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps blessée.
Mais je pense que tu sais, ça part de loin. Bianca, c'est son historique avec les blessures revient pas d'hier, là. Il date de quand elle avait 14-15 ans. Elle avait toujours été vraiment à côtoyer les blessures de près. Puis ça, justement, j'en parlais avec d'autres joueurs et d'autres entraîneurs. À un moment donné, quand tu flirtes avec ça pendant longtemps, puis encore une fois, là, c'est vraiment pas mental, cette blessure-là, c'est prouvé, c'est sur les scans, ils ont prouvé tout. Mais ça vient que ton corps, tu as un peu plus de doute, d'incertitude, tu as toujours cette crainte-là. Et je pense que quand tu joues avec cette crainte-là, tu nécessairement, sans le vouloir, je pense que tu as plus de
Stress.
chances de. Ouais, tu stresses, tu fais des
Plus de corps.
mouvements ou whatever. Et tu es un peu plus craintif. Puis dans ce sport qui est tellement difficile, tellement demandant, je pense que dès que tu as des craintes, ça joue contre toi. Puis on s'entend, elle veut pas se blesser, c'est pas son objectif. Encore une fois, elle avait aucune raison là, de se retirer de ce match-là, comme tu as dit, elle menait 2-0 c'est pas comme si elle perd 6-3, 4-0, puis elle se retire. Tu dis, ah, non, il n'y a pas vraiment de raison. Donc, c'est juste le fait que les blessures ont dû être dans son entourage, c'est un peu plus compliqué, là, je pense, mentalement à ce niveau-là.
Enfin, on va suivre le cas de Bianca Andreescu. C'est tellement dommage dans les circonstances. Avant qu'on saute à Leyla, je veux qu'on parle de Félix parce qu'au moment où on a enregistré l'émission la semaine passée, son tournoi n'était pas terminé. Mais Nico, une défaite contre Cerundolo, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est décevant? Hugues, je le vois déjà dans ton visage. Je pense que ta réponse va être assez claire.
Mais la défaite ne m'a pas surpris tant que ça parce qu'on le répète à chaque semaine qu'il n'y a aucun match de données dorénavant sur le circuit de l'ATP. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point Félix avait l'air dépassé par les événements. On vante toujours sa condition physique. On vante toujours sa force de revenir dans tous les points. Mais là, il avait l'air épuisé. Les épaules étaient basses. Il semblait à bout de souffle. Peut-être que je n'ai pas la même perception que vous avez eue. Mais quand j'ai regardé ce match-là, je me disais, voyons, Félix, il me semble qu'il manque d'engagement. Il me semble que les points étaient courts. Ses jambes étaient lourdes. Il me semble qu'il y a de quoi dans le jeu de Félix. C'est peut-être l'accumulation. C'est peut-être la chaleur. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est ce qui a fait la différence. Puis ça me décevait de Félix parce qu'on sait à quel point c'est un gars qui prend un soin jaloux de son corps et de sa condition physique. Fait que c'est plus ça, moi, qui m'a sauté aux yeux.
Hugues. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage pour Félix dans ces deux dernières semaines ou trois dernières semaines là, du Sunshine Double. Moi aussi, contre Cerundolo, ça me déçoit qu'il n'ait pas réussi à trouver une solution. Bien que Cerundolo l'avait déjà poussé dans
la semaine d'avant,
match cette année, ouais, et que Félix avait gagné quand même. Mais là, le premier set, je vous ai même écrit, coudon, est-ce qu'il est blessé? Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était genre 4-0, 5-0 alors, avant quand je me suis connecté sur le match. Je pense qu'il a perdu le premier set 6-2 finalement. Il a quand même eu une bonne remontée là, à la fin du deuxième set. Mais on voit l'écart quand même qui semble se placer en ce moment. Moi, je le mets dans le groupe des, justement, Alcaraz, Sinner et Rune. Je ne le mets pas dans le groupe des Medvedev, Rublev, Zverev. Il est un peu comme plus près des plus jeunes. Et là, on a pu voir, je pense, l'écart quand même en termes de capacité, je dirais, à être l'agresseur au niveau des jeux, à donner le rythme, à trouver des solutions dans toutes les situations, ce que Alcaraz ou même Sinner semble pouvoir faire quand physiquement ils sont bien. Donc, je pense que Félix doit ressortir de ce moment-là. Puis, Isad, c'est toi le coach du plus haut niveau là, dans l'équipe, évidemment, autour de la table en ce moment. Tu peux nous en parler, mais moi, je pense que Félix est ressorti de là avec quelques apprentissages puis qu'il doit apporter quelques ajustements, notamment. On parlait il y a une semaine de son niveau de réussite au filet qui était notable. Il y avait 17 en 21, donc 17 points gagnés sur 21 avancés au filet dans son match de la semaine dernière. C'est des situations de jeu qu'il doit identifier pour aller chercher des points plus facilement et miser sur sa versatilité. Tant au niveau physique qu'au niveau de ses capacités techniques, il peut presque tout faire, Félix. J'ai l'impression là, qu'il doit apprendre un peu de ce qui s'est passé depuis deux semaines parce que je pense pas qu'il doit être si content de ça, de son Sunshine Double. Je sais pas, Isabelle, ce que tu en penses.
Le tournoi à Miami, moi, j'étais très déçu. Autant que j'adore Félix, puis j'adore son tennis, puis son potentiel. Même son match contre Montero, très difficile, 7-6-7-6. Rien pour enlever à Thiago, qui est un joueur qui est exceptionnel, qui travaille très, très fort. Mais Félix devrait, quand tu regardes un peu, s'il compare aux trois joueurs que tu as dit, il passe un peu plus à travers ces gars-là un peu plus rapidement. Félix l'a fait dans le passé. Là, encore une fois, ça l'arrive à avoir des mauvaises semaines puis des périodes un peu plus difficiles. Mais ce que j'ai ciblé, moi, un petit peu durant ce tournoi-là, surtout à Miami, son incapacité en retour, j'ai trouvé que c'était très difficile. Il y avait de la misère à être efficace, à être constant. Sur les balles de bris, une grosse faiblesse là, à Miami, ce qui est crucial là, pour ces joueurs-là. Tu regardes Alcaraz, Sinner, Medvedev, quand ils ont des opportunités, et surtout qu'on est, encore une fois, Cerundolo, c'est pas un joueur de deuxième plan, mais c'est un gars qui est entre 20 et 40 au monde, que le premier tiers des joueurs actuellement, quand tu as une opportunité, tu passes à travers, ça finit 6-3, 6-4, tu t'en vas chez toi. J'ai trouvé que ça, il y avait un petit peu de misère à être constant, il y a beaucoup de fautes qui sont dues à je ne sais pas quoi pour l'instant. À Indian Wells, c'était un petit peu plus propre son jeu, un petit peu plus clean. Il a passé un peu plus longtemps dans le tournoi. Là, à Miami, je pourrais pas expliquer la raison principale, mais vraiment, c'est un tournoi oublié pour Félix.
La statistique que moi, je regarde souvent, Isad, puis les gars vont pouvoir te le confirmer, c'est la statistique de première balle mise en jeu pour Félix. Je regardais à Indian Wells, il est à peu près à 64-65% de première balle en jeu pour l'essentiel du tournoi, ce qui est très raisonnable. Bon. Ouais. Exact. Mais à Miami, on est plus autour de 54%. Selon toi, est-ce que c'est un peu bas? Parce que Félix, son service est une arme tellement intéressante parce que quand il a un bon service quand il la met en jeu, Félix.
Oui, ben, sa première balle puis son coup droit, ça reste ses deux grosses armes. C'est sûr que 54% pour un gars de son niveau puis de son style de jeu, c'est un petit peu bas. Si tu me dis Karlovic, 54%, mais il a gagné 97% de ses premiers services, c'est différent. Mais Félix, il faut quand même, c'est ça. Quand il y a du succès, il est plus autour de 60. Au moins 58 à 64, je vous dirais. Là, c'est, je pense que le target, c'est 60 pour ces gars-là que. Ils veulent mettre de la pression. Tu veux pas non plus que perdre ton puissance puis ton pop sur ton premier service, mais il faut quand même que tu sois en haut de 55, c'est sûr.
Alors, défaite relativement décevante là, dans le cas de...
Surtout sur dur.
Surtout sur dur, ouais. Surtout sur dur. En tout cas, on verra. Peut-être que le changement de surface et le changement d'air va lui faire du bien, mais bon, c'est vrai que c'est un sunshine double en demi-teinte, mais Indian Wells est quand même satisfaisant là, dans le cas de Félix Auger-Aliassime. Il faut juste garder ça en tête. Et là, Nico, on va te faire plaisir parce qu'on va parler de double un peu plus longtemps. et je pense que ça vaut la peine. Leila Annie Fernandez, en finale avec Taylor Townsend, je pense que c'est une défaite contre Pegula et Coco Gauff, mais ils n'ont pas à rougir de cette défaite-là d'une des meilleures équipes de double au monde. Nico, commentaire sur cette performance de Leila.
D'abord, que Leila gagne des matchs de tennis, c'est génial. Non, mais dans la mesure où ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas de momentum, qu'elle n'a pas de rythme, qu'elle est en quête justement d'une série de victoires, que ce soit en simple ou en double, le simple fait de serrer la main de l'arbitre en tant que gagnante, pour moi, c'est un avantage, puis c'est une caractéristique de son jeu qui va peut-être la propulser puis l'amener à un autre niveau sur terre battue, ou du moins dans la séquence qui s'en vient. Après, Alex, tu l'as dit, on a vu toute la force du duo Pegula et Coco Gauff qui est extraordinaire. Oui, Leila a perdu, mais c'est contre assurément le meilleur duo sur la planète présentement, nul doute là-dessus. Deux joueurs qui prouvent...
Ben, moi, je mettrais peut-être un doute là-dessus parce que Krejcikova puis...
Deuxième favorite.
Siniakova, c'est quand même... Oui, mais mettons, ça se discute. Là, mais c'est un excès.
Présentement, je mettrais peut-être l'avantage à Pegula et Gauff, tandis que à Roland-Garros, dans quelques semaines, ce serait évidemment le duo des Tchèques. Néanmoins, de voir...
Deux bonnes équipes.
Complètement, mais de voir deux filles comme Gauff et Pegula qui excellent en simple et en double, faire la paire et exceller aussi en double, pour moi, c'est du bonbon, puis ça prouve que le double a sa place sur les écrans de télévision, dans nos podcasts comme ça, parce que c'est exceptionnel, puis que Leila puisse rivaliser avec deux grands joueurs comme ça, ça a été une semaine pas parfaite, mais disons une de ces bonnes semaines depuis le début de la saison.
Hugues, est-ce que ça vient mettre un bombe sur le tournoi pour Leila Annie Fernandez, cette finale-là en double?
Oui, oui, assurément. Puis je suis content qu'elle ait eu du volume de jeu à haut niveau. Qu'elle se retrouve contre Gauff et Pegula en finale, c'est une grosse finale. Puis aussi, elle commence avec Clara Townsend. Hein. C'est pas une partenaire régulière. Fait que là, elle commence ensemble, mais c'est une bonne chose là, qu'elles aient une réussite ensemble. Je pense qu'elle va gagner en confiance pour ça. Puis encore une fois, moi, je suis assez confiant pour la suite pour Leila, bien que c'est un peu plus compliqué depuis le début de l'année. On se souvient de Roland Garros l'an passé, si elle ne s'était pas blessée contre Trevisan, elle arrivait en demi-finale. Là. Ça, on a comme zappé ça un peu. Donc effectivement, là, je pense que c'est bon qu'elle se soit rendue assez loin en double pour la confiance là, d'aller jusqu'au bout d'un tableau. Et j'ai hâte de voir la suite pour Leila, mais bon, c'est encore une fois, c'est plus compliqué au niveau du simple. On sait que son classement a quand même baissé un peu, mais je suis pas trop inquiet pour Leila. Puis j'aime surtout sa versatilité au niveau de son jeu. Et je m'attends à quelques belles surprises là, dans la saison de terre battue qui commence cette semaine.
Elle a annoncé qu'elle allait jouer peut-être plus régulièrement dans les prochains tournois avec Taylor Townsend en double. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. Isad,
j'ai dit Clara, c'est bien Taylor Townsend. Hein, désolé.
Ah, okay. Tu l'as bien dit. Non, tu l'as bien dit, Alex. Mais c'est une bonne chose de double. Townsend joue très bien en double. Mais non seulement pour ajouter un petit peu à ce que Nicolas disait tout à l'heure pour la confiance. Non seulement le fait de jouer des matchs, ça l'amène de la confiance, mais aussi dans ces tournois-là, c'est je dirais encore plus du côté féminin, la fierté d'être là durant la fin de la semaine.
Exact.
T'sais, au début, il y a tellement de joueurs, tu t'en rends pas compte. Et les 2, 3 premiers jours, le gym il est plein. La période d'échauffement où tu t'échauffes, c'est loadé, loadé. Mais avoir la fierté puis les épaules hautes d'arriver à la fin le vendredi, le samedi, et qu'il reste 4 personnes, on aurait été seul au monde. C'est vraiment, vraiment gratifiant pour les athlètes. Parce que sinon, tu t'en vas à l'autre tournoi, tu arrives là, tu es encore dans le bon, tu es avec tout le monde, tu n'as pas l'impression que tu es spécial. Puis là, même si c'est juste du double, ça fait vraiment du bien à leur ego d'athlète, de joueur, d'arriver. Puis même si tu es en finale du double ou en finale du simple, juste l'organisation du tournoi arrive, tu te fais un petit peu plus des petits extras, tu es mieux traité. Puis surtout à Miami, c'est un site qui est immense. Pour avoir fait de la finale là, quand j'étais avec Bianca, quand je jouais Barty, à la fin, on dirait t'es dans un désert. Puis c'est quelque chose qui est quand même le fun à vivre là, pour puis ça peut relancer un petit peu une saison qui s'en va un peu nulle part pour quiconque, là.
Hugues, tu voulais acheter?
Ben, juste ajouter que le stade utilisé pour l'Open de Miami, c'est le stade des Dolphins. Hein, c'est le Hard Rock Stadium, qui est un stade multifonction, qui est converti de très belle manière pour le tennis. On ne s'en rend pas trop compte à la télé, là, ils font bien le boulot. Mais effectivement, Isad le dit, qu'on voit les joueurs qui se préparent, qui arrivent vers le terrain. Tu vois l'immensité du stade derrière.
C'est
donc,
ouais.
Ouais, c'est intéressant que les gens comprennent que ce tournoi-là se joue dans le stade des Dolphins de Miami.
Dernier truc, Isad, avant qu'on passe du côté des champions de ce tournoi-là, est-ce que ça peut être une bonne chose pour reprendre du rythme de jouer en double? T'sais, on a vu Chapeau et Félix le faire à Indian Wells. Quand tu ne gagnes pas beaucoup de matchs, est-ce que ça peut être une bonne solution? Même Bianca l'a fait à Indian Wells aussi. Est-ce que ça peut être une bonne chose d'aller chercher des matchs, de se donner des matchs en compétition de plus?
Ben certainement, certainement. C'est premièrement, t'as des fondamentaux que tu joues en double qui peuvent être très importants pour le simple. Qu'on parlait tout à l'heure de premier service. Encore une fois, avec Félix, on a parlé de retour, les volées. Il y a des fondamentaux que tu peux aller jouer. Et au-delà de ça, bon, l'aspect compétitif de se préparer pour un match, que bon, oui, c'est sûr qu'il y en a des premiers tours là, que les gars de simple, ils prennent un peu à légère, puis ils vont juste pour avoir des répétitions, mais plus que le tournoi avance, plus que les gars. Ou les filles, peu importe, qui se préparent très, très bien pour ces matchs-là, d'être en aspect compétitif. Donc oui, c'est très bien. Puis comme tu dis, tu le vois durant la saison, là, quand il y a du monde qui a un peu des creux, c'est pas juste pour l'argent qui s'inscrivent en double, mais c'est pour retrouver un rythme, pour aller retourner sur le terrain, parce que c'est pas la même chose aussi. Il y en a des joueurs qui retournent après un match sur le terrain et s'entraîner 1 heure, mais tandis que là, si tu as un match de double le soir à 19h, tu as ton simple le matin, mais tu fais ta journée, puis tu restes dans l'aspect compétitif, c'est très bien, oui.
Intéressant. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va regarder les champions de ce tournoi-là. Et on a des nouvelles aussi d'Eugénie Bouchard, on va en parler.
Profitez de l'emplacement idéal de l'Hôtel Montville pour explorer les merveilles de Montréal. Réservez maintenant avec l'offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum et profitez d'un séjour de Pâques mémorable à Montréal. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Le robot H2M2 de l'Hôtel Montville vous gâte pour fêter Pâques. Il distribuera des chocolats à tous les clients dans le lobby de l'hôtel le lundi de Pâques. Réservez sur hotelmontville.com votre longue fin de semaine de Pâques avec l'offre « Restez plus et économisez » incluant 15% de rabais à l'achat de 3 nuits et plus.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, on est dans notre résumé du tournoi de Miami. On vient de faire le tour de ce qui s'est passé du côté des Canadiens. Parlons maintenant des champions de ce tournoi-là. Nico, Medvedev, ça surprend personne. À quel point il est dominant depuis le début de la saison?
Oui, c'est hallucinant. Puis cette finale-là, c'est l'une des finales que j'avais le plus hâte de regarder depuis un sacré bail. Parce que Yannick Sinner, ça fait longtemps qu'on le joue au podcast, il a tellement bien joué cette semaine, a fait tomber le meilleur, ben, en tout cas, l'un des deux meilleurs joueurs au monde. Finale un peu peut-être décevante, entre guillemets, parce que Medvedev a tellement été supérieur, tandis que Sinner s'est senti complètement dominé, j'ai envie de dire, surclassé parce que Medvedev a été dans sa bulle. Contrairement il y a 2 semaines à Indian Wells, je pense qu'il ne voulait pas décevoir le public américain pour une 2e semaine de suite. Medvedev est dans une bulle à part. C'est complètement fou ce qui se passe présentement, surtout venant d'un gars qui, l'an passé, a connu une saison pitoyable, qu'il puisse revenir aussi fort en début de saison puis emmagasiner beaucoup de points parce qu'on sait que la terre battue n'est pas sa surface là, de prédilection. Alors, de le voir dans une séquence pareille, ça augure beaucoup de belles choses pour le Russe.
Hugues?
Vous savez à quel point je suis admiratif de Daniil Medvedev pour plein de bonnes raisons. Là. Gars intelligent, polyglotte, grand tacticien. Il a écrit des pages d'histoire depuis quelques semaines. Là. Il faut quand même le dire. Ça faisait 42 ans qu'un homme n'avait pas enchaîné 5 finales de suite. Il fallait remonter en 1981. Ivan Lendl avait fait cet exploit-là d'enchaîner 5 finales.
Même le Big Three ne l'avait jamais fait. Ça, c'est une stat, spectaculaire.
C'est une stat, merci de le dire, Alex, que même le Big Three n'a pas, qui appartient maintenant à Medvedev. Donc, 4 victoires en 5 tournois. Chapeau, Daniil Medvedev. Et une autre stat intéressante, c'était son 19e titre. Dans 19 villes différentes. Donc, c'est assez incroyable comment il va aller chercher ses victoires un petit peu partout. Effectivement, il était prêt pour cette finale-là, mais il faut dire quand même que je pense que Yannick Sinner a laissé beaucoup d'énergie, même au niveau physique sur le terrain contre Alcaraz pour aller chercher cette victoire-là de belle façon. Alcaraz qui est un peu diminué là, par les crampes là, dans le troisième set lors de la demi-finale. Mais je pense que Sinner aurait eu besoin d'une journée de plus de récupération avant sa finale pour arriver à son meilleur niveau contre Medvedev. On sait qu'il a fait venir le physio là, à la fin du premier set ou vers la fin du premier set. Et je pense que Medvedev était prêt à aller chercher cette finale-là, mais ça a été un très, très beau tournoi, cet Open de Miami cette année. Puis, chapeau Daniil Medvedev, le roi du hardcourt, on le sait, il le dit ouvertement, c'est le spécialiste des surfaces dures, ça lui va très bien. Même Sinner lui a lancé une petite pointe durant les discours d'acceptation. Il disait, bon, on passe maintenant sur terre battue, on va voir comment ça va se passer sur toi, sur terre battue. Tout le monde a rigolé un petit peu, on sait que Medvedev n'est pas grand fan de la terre battue, mais chapeau Medvedev, là, un grand champion qui se retrouve au 5e rang aujourd'hui qui est premier à la race en passant au niveau du classement sur l'année calendrier 2023.
Ben, il n'est pas fan des terrains lents parce que même à Indian Wells, il s'est permis de dire que le terrain était beaucoup trop lent, qu'il avait l'impression de jouer sur terre battue. Izad, Medvedev, c'est complètement spectaculaire ce qu'il fait depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui a été la clé selon toi dans cette victoire contre Sinner?
Mais je sais pas c'est quoi le record entre les deux, là, le head-to-head, mais je pense pas que Sinner a beaucoup 6-0. De succès contre Medvedev.
6-0 Medvedev.
Ah, c'est ça. J'avais vu quelque part qu'il n'y avait pas beaucoup de succès. Puis tu vois que le style de jeu de Medvedev fatigue beaucoup Sinner. Ouais. Sinner, malgré que c'est contre Alcaraz, c'est pas qu'il gagne tout le temps, mais il aime beaucoup mieux jouer contre quelqu'un comme ça, qui donne du rythme, qui accélère un peu, comme quand il joue Chapovalov, il y a du succès contre le monde qui donne du rythme, tandis que Medvedev, il est un peu plus loin derrière, il donne pas grand-chose, on sait comment il joue, il est très, très tough. Surtout quand il est confortable sur un terrain, il était confortable cette semaine. Passait un peu moins de temps sur le court qu'Indian Wells. Aussi, Indian Wells, je trouvais qu'il avait passé à côté de la finale, Medvedev, malgré qu'Alcaraz, je n'avais rien enlevé, il avait joué vraiment un match exceptionnel. Mais Medvedev semblait un peu plus fatigué en finale d'Indian Wells comparativement à là. Hier, il semblait plus prêt. Puis je pense que ça a joué un gros rôle, là. La confiance qu'il y a, je pense, contre Sinner, puis le fait qu'il était prêt là, à vraiment aller longtemps sur le terrain.
Nico, est-ce que Medvedev va redevenir numéro un, va rester numéro un mondial? Ben, en fait, je recommence. Il a déjà été numéro un mondial. Est-ce qu'il va redevenir numéro un mondial et rester numéro un mondial? C'est ça que je voulais dire.
Ben, ce qui m'inquiète pour lui, c'est que présentement, Alcaraz s'en va jouer sur la surface qu'il adore le plus. Donc là, je pense qu'il va emmagasiner beaucoup, beaucoup de points. Mais il n'est pas impossible qu'après Wimbledon, notamment, dans cette espèce de rush sur ciment là, aux États-Unis, au Canada, au US Open, Medvedev fasse beaucoup, beaucoup de points. Est-ce que présentement, il a ce qu'il faut pour arriver au sommet du classement mondial? Assurément. Il a les caresses dans les pattes, mais d'ici la fin de la saison, d'ici au final de l'ATP, c'est loin d'être impossible. Loin d'être impossible.
Hugues, est-ce que tu penses que Medvedev, de la façon dont il joue présentement, peut redevenir et rester numéro un mondial?
Je pense qu'il devient un spécialiste de surface dure. Je pense que ça va être plus compliqué dans les prochaines semaines sur terre battue rouge. Je pense même qu'à Wimbledon, parce que les joueurs russes pourront jouer, je le souligne parce que c'est une des nouvelles de la semaine dernière, ouais. Il va aller accumuler des points, mais je ne le vois pas quand même comme champion à Wimbledon. Son style de jeu, là, il est construit pour la surface dure en ce moment, avec une surface où il y a un bon... qui est est assez rapide quand même, mais où ses pieds sont bien stables sur le terrain. Il peut tranquillement avancer après son retour de service où il est à 6 mètres derrière. Je le dis encore, 6 mètres. Et tranquillement, il avance dans l'échange. Il monte au filet s'il peut monter. Mais c'est pas un service voléeur. C'est pas un joueur, un joueur classique de gazon non plus. Fait que je le vois vraiment spécialisé sur dur. Donc, je pense pas qu'il peut devenir numéro 1 avec Djokovic, Alcaraz en forme. Je pense pas qu'il y a le jeu pour revenir numéro 1 mondial.
Ouais, plus tu tires les échanges avec Medvedev, plus ça l'avantage. Là, c'est un style jeu intéressant de ce côté-là.
Puis pour les gens à la radio, là, tu sais, qui serait peut-être pas visuel, la distance entre la ligne de service et Medvedev lorsqu'il rejoint un service, c'est à peu près la distance Montréal-Sainte-Agathe. À peu près.
Non, mais c'est vrai. Ouais.
Il ne pourrait pas jouer dans tous les clubs au Québec. Là. Il pourrait non, pas jouer. Non, là.
Mais on fait souvent la blague. On fait souvent la blague parce qu'on dit s'il pouvait recevoir la balle dans les gradins, il le ferait.
J'ai une question pour Izad. Très, très technique ou tactique. Là. Pourquoi les joueurs ne font pas plus de sortants en cours? Je comprends pas comment ils réussissent à les rattraper en retour de service.
Ouais, mais si tu regardes où il est placé aussi du côté égalité, là, il est pas, mettons, à la place classique qu'un quelqu'un se remettrait là, à gauche du corridor. Ben, il triche pas mal parce que c'est sûr qu'il faut qu'il couvre le sortant. Puis l'affaire qui l'avantage un petit peu, c'est qu'en étant loin comme ça, le sortant perd beaucoup de vitesse. Et puis quand il retourne, tu le vois, il coupe très, très bien l'angle. Il coupe très bien l'angle. Après, on prenait aussi pourquoi le monde ne fait pas plus de service par en dessous, court, whatever. Puis après, ça devient aussi mental. Les gars, il faut qu'ils jouent leur game à eux. Les gars, on est bon service. Tu peux pas non plus commencer à tout chambouler ta game en service parce que les gars sont habitués de faire certaines choses. Puis il faut que tu trustes ton jeu, faut que tu fasses confiance en tes outils. Donc, si tu commences à tout changer, pour ça, Nadal fait un peu la même chose. Nadal, il est très, très loin. Tim, quand il a gagné l'US Open, il était extrêmement loin. Donc les gars se butent à leur jeu, à leur confiance, c'est difficile, oui, mais comme je dis, en voyant comment il retourne les services sortants, j'ai jamais joué contre lui, je pourrais pas te le dire, mais il a l'air quand même d'avoir du succès, donc je te dirais que c'est la manière qu'il coupe le service, c'est très très bon. Là.
Mais Izad, comment t'en arrives à reculer autant? C'est-à-dire, est-ce que plus jeune, il y avait des lacunes en retour de service, fait que ses coachs lui disaient de reculer le plus possible? Comment t'en arrives à reculer autant, parce qu'il est l'un des seuls, à part peut-être Nadal, comme tu l'as dit, à le faire, tu sais.
Ouais, mais ça fait pas tant longtemps que les joueurs ont commencé à faire ça, parce que le jeu a commencé à aller tellement rapidement. Tout va tellement vite que les gars, ils ont pris l'habitude de reculer puis de se donner du temps. Surtout des styles de jeu comme Nadal, Medvedev, que c'est des murs, on s'entend, là. C'est assez de passer la balle par à côté de moi puis tu vas gagner. Mais c'est vraiment, je pense, ça vient de là. Il y a personne dans les juniors, là. Mais de plus en plus, tu commences à le voir, mais les juniors, les services sont pas assez rapides, ça sert à rien de dire, hey, je vais me mettre dans les fesses d'Antoine, dans la clôture pour essayer. On a, le pire, c'est qu'on essaye de plus en plus d'apprendre aux jeunes, de contrôler le terrain, d'essayer de dominer, de prendre l'avant de l'offensif. Ce qui fait aussi très bien, Medvedev, quand il a la chance, là, c'est sûr qu'il aime ça être derrière, mais quand il a la chance, tu jouerais contre lui, il serait pas derrière, là. Tu sais, quand il a la chance d'avancer, il le fait aussi quand même. Il y a un jeu. Il est très, très défensif, mais son jeu offensif est quand même d'élite, là.
Oui. Ouais, s'il jouait contre moi, il pourrait se mettre n'importe où sur le terrain, il n'y aurait pas trop de problèmes, je te dirais. Rapidement, là, messieurs, parce que je veux qu'on se garde du temps pour parler avec Isa, là. Il y a beaucoup de choses à dire avec Isa. Bon, du côté des femmes, si quelqu'un avait prévu Petra Kvitova, bravo. Honnêtement, mais c'est bizarre de dire ça comme ça parce que la fille, c'est une fille qui a deux grands chelems, qui a été numéro 2 mondial. Je veux dire, c'est une fille qui.
Elle était 12e au monde.
Deuxième.
Mais ouais. Exact, elle était 2e au monde, exact, exact. Fait que, écoute, c'est surprenant, mais je sais pas. Est-ce que c'est bizarre de dire que c'est surprenant pour une fille qui a un palmarès aussi élevé, Hugues?
En 2023, oui. Moi, je dirais une championne qui revient de loin. Nico a fait un bel article d'ailleurs sur elle dans la presse ce week-end. N'oubliez pas que sa deuxième place mondiale, c'est en 2011. Là. Ça fait un bail. Elle a 33 ans aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'elle a gagné Wimbledon en 2014 contre une certaine Eugénie Bouchard. Donc, on dirait une autre époque. Là. Donc, et on se souvient là, de cette histoire où il y avait une entrée par réfraction chez elle. Elle s'est fait poignarder. Elle revient de loin, Petra Kvitova, mais on est super content pour elle parce qu'on voit depuis un an qu'elle fait des bons tournois, elle a des grosses victoires. Donc, mais je n'aurais pas parié sur Kvitova, même contre Rybakina. Donc, très, très grande victoire pour Petra Kvitova. Et on a vu le bonheur dans son visage sur le point de match, là, c'était vraiment beau à voir.
Nico, elle a battu Ostapenko et Pegula à Indian Wells. Elle a finalement perdu en quart de finale pour battre Sakkari. Et là, dans ce tournoi-là, ça a été peut-être un peu plus simple. Elle a battu Alexandrova et peut-être Noskova, la Tchèque, là, qui est un bel espoir. Mais une victoire contre Rybakina qui y allait pour le Sunshine Double. Je ne sais pas si tu avais prévu ça. Là.
Non, mais moi, il y a trois choses qui me fascinent. D'abord, le fait qu'elle gagne après l'histoire dont tu viens de parler. Le fait qu'elle batte Rybakina, qui est de loin cette année la meilleure joueuse au monde, même si diminuée, on l'a vu au cours de cette finale-là. Et l'autre chose qui me fascine, c'est qu'une joueuse de la sorte gagne avec un style old school. Parce que, disons-le, Kvitova, c'est pas la fille qui a le plus de coups dans sa manche, pas beaucoup d'amortis, pas beaucoup de polyvalence. Sa seule stratégie, c'est de frapper le plus fort possible, le plus de fois possible, comme en 2011, 2012, 2013. Et de voir qu'elle puisse battre une Rybakina qui, elle, a un arsenal de coups beaucoup plus développé, ça me rassure sur le fait qu'il y a encore des joueuses old school, je me répète, des joueuses plus vieilles qui peuvent encore aspirer à gagner des matchs de tennis avec ce qu'ils ont dans leur arsenal. Fait que oui, ça a été pas une grande finale, là, disons-le. Là, c'est pas une finale qui va passer à l'histoire et puis au tombe de la renommée du tennis. Là. Mais ça reste que pour Kvitova, c'est un accomplissement phénoménal. Puis c'est la première fois en 24 fois, je pense, qu'elle a gagné un des deux tournois du Sunshine Double. Là, fait que c'est fort mérité pour la Tchèque.
Je ne m'étendrai pas trop sur cette victoire-là, en dépit du fait que c'est quand même une victoire surprenante. Mais Hugues, tu m'as fait le lien parfait parce que je voulais faire ce lien-là en disant, bon, la dernière fois vraiment qu'on parlait beaucoup de Petra Kvitova, c'était, il y avait une certaine Eugénie Bouchard en finale contre elle. Et là, ben justement, le hasard fait bien les choses. On a des nouvelles d'Eugénie Bouchard qui est de retour. Elle est en action au moment où on se parle. Elle joue un tournoi à Bogota. À quoi s'attendre d'Eugénie Bouchard? Ça nous a pris peut-être un peu... Ben, en tout cas, Isad, tu nous le diras, tu es plus dans le secret des dieux que nous, mais ça nous a pris un peu par surprise, ce retour au jeu-là.
Ouais, ben, je pense qu'elle n'a jamais arrêté d'essayer de revenir. C'est juste... C'est par petit bout de chemin, puis ça a été très lent comme retour, je crois. Parce qu'elle aussi, elle a été embêtée par beaucoup de blessures. On a parlé beaucoup de Bianca, là, qui a beaucoup de blessures. Eugénie, je pense qu'elle fait son petit bout de chemin. Elle essaie de revenir. Je pense pas que ses attentes sont aussi élevées que Bianca non plus après son retour. Là. Je pense pas qu'elle s'attend à être de retour dans le top 5 mondial. Elle est pas vieille non plus, là, elle a 28 ans, mais je pense que ses attentes sont un petit peu plus réalistes. Rien pour enlever à Eugénie, là, qui est une joueuse de tennis qui a un très bon niveau, qui a accompli des choses exceptionnelles pour le Canada. Mais je crois que là, elle est dans son mix puis qu'elle peut encore faire quand même des bonnes choses. Là.
Elle n'a que 29 ans. Hugues, est-ce que tu es surpris de ce retour au jeu-là?
Je suis content qu'elle ait encore envie de jouer parce que moi aussi, je me dis, bon, est-ce qu'elle est en pré-retraite? Où elle est dans sa tête exactement? Je le sais pas. J'ai pas d'informations privilégiées sur Eugénie en ce moment, mais je suis content de l'avoir essayé de gagner des tournois encore. Donc, on verra ce que ça va donner, mais je ne connais pas ses objectifs pour l'année.
Nico, commentaire rapide sur Eugénie.
On vise le grand chelem.
Participer au Grand Chelem, c'est ça le Grand Chelem?
Exactement. Dans la même année pour Eugénie.
Là, Isad, tu le fais bien paraître parce que c'est pas ça qu'il avait en tête. Là. Lui, avec ce commentaire-là, il voyait Eugénie avec le trophée dans les mains. Catherine Sébov est également dans ce tournoi-là. On n'en parlera pas trop parce que les matchs sont en cours présentement. Alors, au moment où on enregistre, c'est un peu plus compliqué de faire un bilan de ça. On vous en reparlera la semaine prochaine. Isad, je vais te remercier infiniment pour ton passage une fois de plus. Merci pour ton côté technique et ton inside access. C'est toujours bien intéressant. Et puis, de notre côté, mission, on va faire une courte pause. Et au retour, Isabelle et Thierry.
Profitez de l'emplacement idéal de l'Hôtel Montville pour explorer les merveilles de Montréal. Réservez maintenant avec l'offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum et profitez d'un séjour de Pâques mémorable à Montréal. Rendez-vous sur hotelmontville.com. Le robot H2M2 de l'Hôtel Montville vous gâte pour fêter Pâques. Il distribuera des chocolats à tous les clients dans le lobby de l'hôtel le lundi de Pâques. Réservez sur hotelmontville.com votre longue fin de semaine de Pâques avec l'offre « Restez plus et économisez » incluant 15% de rabais à l'achat de 3 nuits et plus.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale et on accueille la spectaculaire Isabelle Étier. Merci Isabelle de te joindre à nous une fois de plus. Avant qu'on rentre dans tous les sujets, je veux te féliciter parce que tu as eu à sauter en relève pour aller décrire le tennis en compagnie de Marie-Ève Pelletier. Comment tu as aimé ton expérience?
Ce fut très fébrile, je te dirais. Oui, c'était dernière minute. On m'a appelé dimanche en après-midi, puis j'ai fait la partie dimanche soir, Arina Sabalenka contre Maria Buskova. Et écoute, à défaut de pouvoir jouer sur les grands terrains et de jouer à la télévision, au moins j'ai pu le décrire, l'animer surtout. Mais ce fut toute une belle expérience parce que Marie-Ève, c'est, tu sais, elle a l'esprit de coach en elle. Hein. Rapidement, elle me fait sentir à l'aise. Et encore une fois, je dois souligner TVA Sport. Ils m'ont dit, Isabelle, sois toi. On ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Bon, tu es amateur de tennis. Tu connais quand même ton tennis. Tu aimes ça. Vas-y comme si tu étais dans ton salon. Je vous confirme, c'est plus difficile à la télé que dans son salon. Mais quand même, de se faire enlever de la pression comme ça, ça a été très agréable.
Ben ouais, quand même. Mais es-tu satisfaite de ton expérience au-delà de ça? Là, tu parles de ton anticipation, mais es-tu satisfaite?
Super contente, ça a bien été. Maintenant, bon, je réalise, j'étais chanceuse parce que c'était une partie avec des noms un peu plus faciles à prononcer. Merci à Nicolas Richard qui m'a montré comment maintenant aller chercher la prononciation parce que je me suis fait avoir dimanche à la radio lorsque j'ai voulu commenter. Mais je tiens aussi à préciser aux gens, on le sait comment prononcer les noms, on les entend, mais quand on fait une chronique, on a aussi sous les yeux les mots. Hein, puis des fois, on est porté à lire en français et à oublier qu'on dit les mots dans une autre langue. Fait que c'est quand même de quoi je dirais que j'ai commencé déjà à pratiquer mes autres prononciations.
Oui, bien ça, Isabelle, c'est un éternel débat dans le monde du tennis, à savoir si on le prononce à la française et ou dans la langue originelle. Et l'exemple parfait, c'est est-ce qu'on doit dire Nali ou Lina? À l'époque, on disait tout le temps ça, là, c'est dans quel sens qu'on le dit. Si on le dit à la nord-américaine, on le disait Nali. Si on le disait traditionnellement chinois, c'était Lina. Alors, voilà.
Juste Viatek, c'est pas encore clair, hein, en passant.
Oui, Chiantec ou Viatek. C'est ça. Puis encore là, si tu écoutes ESPN, de façon générale, ils ne se cassent pas trop le basic. Eux autres, c'est à l'américaine, puis c'est ça. Là.
Même Alcaraz, des fois, j'entends Ray Gimbald.
Ah, mais ça,
c'est... Non, mais moi, je l'appelle Alcatraz, parce que, tu sais, ils te mettent comme dans une prison. C'est très difficile de te sortir d'un match avec lui. Fait que je trouve que son surnom, c'est Alcatraz.
C'est bon. L'affaire, c'est qu'il sort...
Ouais, Alex, je veux juste dire, je trouve ça vraiment cool que TVA Sport a mis une deuxième paire 100% féminine à l'animation, à l'analyse. On sait qu'il y a Frédéric Gay souvent qui est là. Oui. Mais de voir Isabelle prendre cette place-là, cette chaise-là, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et j'aime bien qu'il y a des nouvelles voix qui arrivent dans le tennis. Et Isabelle, avec nous, c'est une nouvelle voix aussi à TVA Sport, évidemment. Donc, c'est vraiment cool là, de créer ces nouvelles paires-là dans l'analyse du tennis parce qu'on sait qu'il y a eu une stabilité très longtemps. Et là, on a plusieurs bonnes nouvelles voix qui arrivent dans le tennis. Donc, j'étais vraiment content de te voir, Isabelle, en onde pour décrire ce match-là.
Ben, Dieu sait, Hugues, que tu t'encourages ça depuis longtemps parce que, écoute, je vais rappeler aux gens que c'est toi en partie qui as donné une vraie chance à Valérie Tétrault pour tomber à l'analyse. Et bien, on sait qu'est-ce que ça a donné. Elle est certainement une des meilleures analystes, tout sport confondu, à la télévision. Alors, ici, je ne me souviens pas, tu as peut-être bien fait Marie-Ève Pelletier et Valérie Tétrault ensemble. Aussi à l'époque à Grimby, là, je ne sais pas si tu étais encore là, enfin, c'est pas la première fois. C'est intéressant que tu puisses le souligner. Isa, parlant d'équité, tu veux nous parler d'un programme de la WTA qui s'appelle Jeux 7 et équité. Programme Jet 7 équité, excuse-moi.
Oui, de Tennis Canada en collaboration avec la Banque nationale. Puis bon, je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui parce que bon, une petite donnée comme ça. Savez-vous que c'est une fille sur trois qui abandonne le sport au niveau de l'adolescence? Quand comparativement aux garçons, c'est 1 sur 10. Mmh. C'est trois fois plus. Lorsqu'on parle des femmes qui sont actives, qui pratiquent un sport entre 16 et 63 ans, c'est 18% seulement de la population canadienne. Et moi, ça, à chaque fois, je tombe de voir ces statistiques-là et je trouve ça important d'amener justement un peu plus de femmes, de personnes, de femmes dans l'entourage des sports. Parce que oui, on peut pratiquer, mais on peut être aussi impliqué. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, ils vont dire, ben oui, mais il me semble qu'on a déjà entendu un programme avec Tennis Canada, justement, de dire, écoute, il me semble qu'en 2021, il y a quelque chose qui a été annoncé avec la Banque nationale. Ben oui, justement, il y avait annoncé leur implication. On avait vu aussi le programme avec Bianca Andreescu, fille 7 et match, excuse-moi. Mais là, on est vraiment dans, on a établi le plan de match, vraiment. On a la stratégie, on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et je trouvais important de ramener les 5 piliers aujourd'hui. Ils veulent accroître la participation, mais à tous les niveaux, pas juste sur le terrain. Et ça, je trouve ça super important. Créer des expériences équitables, inclusives et sécuritaires, c'est important. Puis vous le savez, je viens du milieu aussi du hockey. Notre sport, on se le veut sécuritaire. On veut encadrer les jeunes et les moins jeunes. Puis ça, ça fait partie des piliers. Assurer le leadership des femmes. Tu sais, on parlait de Valérie Tétrault, on parle de Marie-Ève Pelletier, on parle de ces femmes qui font une différence et c'est important de leur donner des places pour évoluer. Et ça commence en jeune âge, tu sais, de pouvoir voir, tu sais, bon, j'ai animé la semaine passée la fête du hockey féminin de la Banque Scotia au Centre Bell, puis on parlait aux jeunes filles, puis on parlait aux joueuses professionnelles, puis ce qu'ils me disaient, ce qui était important, c'est de voir pour y croire, mais c'est encore là, c'est très présent ici avec le tennis. Favoriser les avancées commerciales du sport féminin, parce que bon, ça va prendre de l'argent pour pouvoir y arriver, puis assurer une visibilité, une prise de parole égale. Donc, moi, je trouvais... Je voulais juste que vous... On va l'entendre parler de plus en plus. Il y a des super ambassadrices qui vont pouvoir aller encore plus en détail. Bon, Rebecca Marino, Marie-Ève Pelletier, Valérie Tétrault en font partie pour ne nommer que celle-là. Il y a aussi des hommes qui sont dans le processus. Mais je voulais commencer à vous familiariser avec le concept aujourd'hui. C'était un peu ça mon objectif avec vous. Et là, la première étape, tu sais, je pense que les bases ont été jetées, on le sait, ça fait 2 ans que travaille le terrain. On veut s'assurer aussi de promouvoir, d'en parler. Tu sais, on le sait, pour pouvoir comprendre, pour s'assurer d'adhérer à un projet, ça prend de la fréquence. Donc là, je commence à faire de la fréquence aujourd'hui avec vous autres. Fait que vous risquez de m'en entendre parler à plusieurs occasions et de le mettre en situation parce que je trouve ça une belle initiative. Je trouve ça important de pouvoir justement avoir une meilleure équité, de l'égalité des genres. Bon, c'est sûr qu'ils vont parler des bourses. Il y a plein de choses dans ce projet-là. Mais bref, aujourd'hui, c'était pour moi une introduction que j'avais envie de faire avec vous parce que là, ça a été développé, ça a été annoncé il y a 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas, selon mes dates.
À quel point c'est important un programme comme ça pour la participation du tennis? Et là, j'ai posé la question en tant que directeur de tennis Montréal là, et non pas en tant que fan de tennis.
C'est important qu'il y ait un partenaire institutionnel comme la Banque nationale qui mette les moyens derrière. Je vais l'appeler comme ça, là. Je vais commencer comme ça parce que ça ouvre plein de possibilités de communication, de construire ces programmes-là. Et sans un partenaire comme la Banque nationale, ça ne serait pas possible, tout simplement. Ça serait une belle intention, ça serait une vision. Donc, oui, c'est important pour la participation. Puis, j'ai aimé ce qu'Isabelle disait sur l'évolution à travers le tennis qu'on peut faire sur ce programme-là. Ce n'est pas que sur le terrain. On vise des postes en administration du tennis, dans la gestion du tennis, dans le coaching. Il y a plusieurs façons d'évoluer dans une carrière de tennis pour les jeunes filles. Et c'est pour ça que quand on parlait de cette stat de une fille sur 3 qui arrête, c'est de démontrer qu'il y a plusieurs possibilités pour continuer après. Ce n'est pas seulement de compétitionner au plus haut niveau. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas que ça. Donc, oui, c'est primordial. Primordial, et c'est walk the talk, on le dit, c'est ça que Tennis Canada fait avec la Banque nationale en ce moment. Donc, oui, c'est extrêmement important. Puis, on va récolter les fruits de ça. Et on a souvent parlé, les gars, qu'on parlait d'équité des bourses. Il faut que ça vienne d'une intention corporative parce que la WTA... Tennis Canada seul n'aura pas ces moyens-là. Donc, si quelqu'un croit et investit là-dedans, c'est là que justement que la population, que les médias, que les annonceurs vont dire oui, OK, on est prêt à embarquer maintenant, mais il faut que ça passe par ce type de programme-là, c'est fondamental.
Intéressant. Nico, commentaire rapide sur ce programme-là?
Oui, c'est la presse qui avait sorti en exclusivité ce programme-là, puisque je trouvais chouette. Oui, il y a le terrain, mais il y a surtout l'exemple qu'on donne dans les bureaux. Parce voilà. que lorsque tu as une Valérie Tétrault qui est non seulement pertinente et à sa place, exactement. Lorsqu'elle prend le moyen de ses actions, je trouve que ça envoie un message très, très clair. Parce que tu sais, dans plusieurs institutions sportives, Hockey Canada, Soccer Canada, pour ne pas les nommer, on plaide qu'on veut plus de femmes sur le terrain, plus de femmes comme entraîneurs, mais dans les bureaux, il n'y a aucune femme. Alors, de voir que chez Tennis Canada, on prend le moyen de nos ambitions, puis on applique le plan, puis que ce n'est pas juste une façade, pour moi, c'est névralgique. Alors, lorsque tu as des... Valérie Tétrault, je l'ai dit, Eva Harris à Toronto notamment, qui s'occupe de ce programme-là, ça montre qu'il y a de l'intérêt, puis que c'est du concret. Fait que pour moi, ça, oui, sur le terrain, on veut plus de filles sur le terrain qui jouent au tennis, et Dieu sait qu'il y en a déjà une tonne, là, parce que la plupart de nos succès canadiens sont féminins, là, on pense à Bianca, Leila et Eugénie, Gabriella notamment aussi, Rebecca. Mais que ce soit aussi à toutes les sphères chez Tennis Canada, pour moi, c'est très intéressant.
Et groupe, je tiens à dire que Tennis Canada est précurseur là-dedans. On sait que c'est un enjeu de gouvernance pour le hockey, pour le soccer en ce moment. Ça a fait les manchettes depuis plusieurs mois. Mais le tennis, pour moi, donne le ton au niveau de mettre les moyens derrière ces programmes d'équité des genres.
Je pense que c'est des programmes qui sont essentiels. Oui.
Non, mais je voulais juste renchérir, puis je suis d'accord avec toi, Hugues, que le tennis fait bonne figure et précurseur. Ça fait des années. Je parle souvent justement d'équité dans mes chroniques un peu partout. Et c'est l'exemple à donner. Bon, il y a encore du travail, puis je suis contente de voir que ce plan national, bon, que Tennis Canada a envie d'aller encore plus loin dans cette démarche-là. Et c'est ça que je voulais souligner aujourd'hui.
Ben, je pense que c'est essentiel, comme je disais, d'avoir des programmes de ce genre-là pour continuer à développer le sport. Et si on peut aller chercher une base de joueuses plus grande à la base et en garder plus longtemps dans le sport, mais je pense que c'est tout le monde qui va en bénéficier. Enfin, Hugues, on va terminer l'émission avec ton traditionnel segment sur est-ce qu'on a à surveiller la semaine prochaine. On va garder, j'imagine, un œil sur Charleston.
Je vais te dire quatre choses, OK? Rapidement, Nadal, Djokovic sont sur les terrains de Monte-Carlo en train de s'entraîner, attendent leurs adversaires de pied ferme sur terre battue. Donc, première chose à surveiller, l'entraînement qui se passe à Monte-Carlo en ce moment, qui commence le week-end prochain. Du côté féminin, Charleston, effectivement, du côté américain, saison de terre battue, donc hard shoe, cette surface-là, terre battue américaine. Ce n'est pas la même terre battue, qu'en Europe. Elle grise, on appelle le hard true. C'est la petite roche concassée. Et côté masculin, Estoril au Portugal, Houston côté américain et le Grand Prix Hassan II au Maroc aussi sur terre battue rouge cette semaine.
On se donnera des nouvelles de Eugénie Bouchard aussi un peu plus tard. En fait, la semaine prochaine, voir comment son retour se sera passé. Et Catherine Sebov également dans ce tournoi-là. Merci à tout le monde. Merci à Isa Gino pour sa participation un peu plus tôt dans l'émission. Merci Isa pour tes propos pertinents une fois de plus. Et Nicolas Richard, comme c'est la tradition, je vais te demander de terminer en beauté l'émission.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Isaïe, bon tennis tout le monde.